sexe et genre. Il n'y a donc pas grand sens à affirmer que la fonction naturelle des femmes est de donner naissance ou que l'homosexualité est contre nature. La plupart des lois, normes, droits et obligations qui définissent masculinité et féminité sont un reflet de l'imagination humaine plutôt que de la réalité biologique. Biologiquement, les humains sont eux aussi divisés en mâles et en femelles. Un homo sapiens mâle a un chromosome X et un chromosome Y, quand une femelle a deux X. En revanche, hommes et femmes sont des catégories non pas biologiques, mais sociales. Alors que dans la grande majorité des cas, dans la plupart des sociétés humaines, les hommes sont des mâles et les femmes des femelles, les termes sociaux portent un bagage qui n'a, au mieux, qu'un lien ténu avec les termes biologiques. Un homme n'est pas un sapiens avec des qualités biologiques particulières, telles que des chromosomes XY, des testicules et beaucoup de testostérone. Il s'inscrit plutôt dans une case de l'ordre humain imaginaire de sa société. Les mythes de sa culture lui assignent des rôles masculins particuliers, participer à la vie politique, des droits, voter, et des devoirs, service militaire. De même, une femme n'est pas une sapiens avec deux chromosomes X, une matrice et plein d'œstrogènes, mais une femelle membre d'un ordre humain imaginaire. Les mythes de sa société lui assignent des rôles humains uniques, élever des enfants, des droits, celui d'être protégé de la violence et des devoirs, obéir à son mari. Comme ce sont les mythes plutôt que la biologie qui définissent les rôles, les droits et les devoirs des hommes et des femmes, le sens de la masculinité et de la féminité a immensément varié d'une société à l'autre. Pour dissiper la confusion, les spécialistes distinguent habituellement le sexe, qui est une catégorie biologique, du genre, qui est une catégorie culturelle. Le sexe est divisé entre mâle et femelle, et les qualités de cette division sont objectives et sont demeurées constantes tout au long de l'histoire. Ainsi, la femelle possède des chromosomes XX, une matrice, des ovaires, a peu de testostérone, mais beaucoup d'œstrogènes et produit du lait. Le genre est divisé entre hommes et femmes. Certaines cultures reconnaissent d'autres catégories. Les qualités dites masculines et féminines sont intersubjectives et ne cessent de changer. Par exemple, en matière de comportement, de désir, d'habillement, voire de posture du corps, on n'attend pas du tout des Athéniennes modernes ce qu'on attendait des femmes dans la Grèce antique. L'Athénienne antique n'a pas le droit de vote, ne peut être juge, est exclue des fonctions publiques, ne peut choisir son époux, est généralement illettrée et appartient légalement à son père, au contraire de l'Athénienne moderne qui a le droit de vote, peut être juge, peut exercer des fonctions publiques, peut choisir son époux, est typiquement lettrée et est légalement indépendante. Autant le sexe est un jeu d'enfant, autant le genre est une chose grave. Devenir un mâle est la chose la plus simple au monde. Il suffit de naître avec un chromosome X et un chromosome Y. Il est tout aussi simple d'être une femelle. Deux chromosomes X y pourvoiront. En revanche, devenir un homme ou une femme est une entreprise très compliquée et exigeante. Puisque la plupart des qualités masculines et féminines sont culturelles plutôt que biologiques, aucune société ne reconnaît automatiquement en chaque mâle un homme, ni en chaque femelle une femme. Ces titres ne sont pas non plus des lauriers sur lesquels on puisse se reposer une fois qu'on les a acquis. Les mâles doivent constamment prouver leur masculinité tout au long de leur vie, du berceau au tombeau, dans une série interminable de rites et de performances. Et une femme n'en a jamais fini. Elle doit sans cesse se convaincre et convaincre les autres qu'elle est assez féminine. La réussite n'est pas garantie. Les mâles, en particulier, vivent dans la peur constante de perdre leur titre à la masculinité. Tout au long de l'histoire, des mâles ont été prêts à risquer leur vie, voire à la sacrifier pour qu'on dise d'eux « Quel homme !» Qu'y a-t-il de si bien chez les hommes ? Au moins depuis la révolution agricole, la plupart des sociétés humaines ont été des sociétés patriarcales, attachant plus de prix aux hommes qu'aux femmes. Peu importait la définition que la société donnait d'un homme et d'une femme, il était toujours mieux d'être un homme. Les sociétés patriarcales éduquent les hommes à penser et à agir de façon masculine, les femmes à penser et à agir de façon féminine, et sanctionnent quiconque ose franchir ces frontières. Pour autant, elles ne récompensent pas également ceux qui se conforment à ces principes. Les qualités jugées masculines sont davantage prisées que les qualités réputées féminines, et les membres de la société qui personnifient l'idéal féminin reçoivent moins que ceux qui illustrent l'idéal masculin. De moindres ressources sont investies dans la santé et l'éducation des femmes. Moins de possibilités économiques leur sont ouvertes. Elles ont aussi moins de pouvoir politique et moins de liberté de déplacement. C'est une course dans laquelle certains coureurs ne concourent que pour la médaille de bronze. Certes, une poignée de femmes se sont hissées à la position alpha. Ainsi, de Cléopâtre en Égypte, de l'impératrice Wu Zetian en Chine, autour de l'an 700 de l'ère commune, et de la reine Élisabeth Ière en Angleterre. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Tout au long du règne de 45 ans d'Élisabeth, tous les parlementaires furent des hommes, de même que tous les officiers de la marine royale et de l'armée, tous les juges et les avocats, tous les évêques et les archevêques, tous les théologiens et les prêtres, les médecins et les chirurgiens, les étudiants et les enseignants de toutes les universités et de tous les collèges, tous les maires et les shérifs et la quasi-totalité des écrivains, des architectes, des poètes, des philosophes, des peintres, des musiciens et des savants. Le patriarcat a été la norme dans presque toutes les sociétés agricoles et industrielles. Il s'est révélé assez tenace pour résister aux chambardements politiques, aux révolutions sociales et aux transformations économiques. L'Égypte, par exemple, a été conquise maintes fois au fil des siècles. Assyriens, Perses, Macédoniens, Romains, Arabes, Mamelouks, Turcs et Britanniques l'occupèrent, et sa société est toujours demeurée patriarcale. L'Égypte a été soumise au droit pharaonique, au droit grec, au droit romain, au droit islamique, au droit ottoman et au droit britannique, et la discrimination a toujours persisté contre ceux qui n'étaient pas de vrais hommes. Le patriarcat est si universel qu'il ne saurait être le produit d'un cercle vicieux né d'un simple hasard. Il est particulièrement frappant que, même avant 1492, la plupart des sociétés d'Amérique et d'Afro-Asie étaient patriarcales, alors même qu'elles étaient hors d'atteinte depuis des millénaires. Si le patriarcat afro-asiatique est né d'un hasard, d'où vient que les Aztèques et les Incas aient été patriarcaux? Il est bien plus probable que, même si la définition précise d'homme et de femme varie d'une culture à l'autre, il existe une raison biologique universelle qui explique que la quasi-totalité des cultures ait mis la virilité plus haut que la féminité. Les théories sont nombreuses, mais aucune n'emporte la conviction. Force musculaire. La théorie la plus courante fait valoir que les hommes sont plus forts que les femmes et qu'ils ont profité de leur force physique supérieure pour soumettre les femmes. Suivant une version plus subtile, leur force permet aux hommes de monopoliser des tâches qui exigent un travail manuel rude, comme le labourage et la récolte, ce qui leur donne le contrôle de la production alimentaire et se traduit donc en poids politique. Cette insistance sur la force musculaire pose deux problèmes. Primo, l'idée que les hommes sont plus forts que les femmes n'est vraie qu'en moyenne, et juste pour certains types de force. Les femmes sont généralement plus résistantes à la faim, à la maladie et à la fatigue que les hommes. Beaucoup de femmes courent plus vite et soulèvent des poids plus lourds que beaucoup d'hommes. Secondo, et c'est des plus problématiques pour cette théorie, les femmes ont été tout au long de l'histoire exclues surtout des tâches qui exigent peu d'efforts physiques, prêtrises, droits, politiques, et ont dû assumer de nombreux travaux manuels rudes au champ, dans les artisanats et à la maison. Si le pouvoir social était divisé en rapport direct avec la force physique ou avec l'endurance, les femmes en auraient eu une plus grande part. Qui plus est, il n'y a tout simplement aucun rapport direct entre la force physique et le pouvoir social chez les hommes. Les hommes de 60 ans passés ont le pouvoir sur les jeunes de 20 ans passés, alors même que les jeunes de 20 ans et quelques années sont bien plus robustes que leurs aînés. Au milieu du XIXe siècle, n'importe lequel des esclaves de ces champs de coton aurait mis à peine quelques secondes pour jeter à terre le planteur d'Alabama type. les matchs de boxe n'étaient pas faits pour sélectionner les pharaons ou les papes. Dans les sociétés de fourrageurs, la domination politique revient généralement à qui possède les meilleurs talents sociaux plutôt que la musculature la plus développée. Dans la mafia, le big boss n'est pas nécessairement le plus costaud. Il est souvent un homme plus âgé qui se sert rarement de ses poings. C'est un homme plus jeune et plus en forme qui fait le sale boulot pour lui. Le type qui imagine qu'il suffit de tabasser le parrain pour prendre la tête du clan a peu de chances de vivre assez longtemps pour tirer les leçons de sa méprise. Même parmi les chimpanzés, le mâle alpha gagne sa position en formant une coalition stable avec d'autres mâles et femelles, non pas par une violence aveugle. En vérité, l'histoire fait souvent apparaître une relation inverse entre prouesse physique et pouvoir social. Dans la plupart des sociétés, ce sont les classes inférieures qui font les tâches manuelles. Peut-être est-ce un reflet de la position de l'Homo sapiens dans la chaîne alimentaire. Si seul comptaient les capacités physiques brutes, Sapiens se serait trouvé au milieu de l'échelle. Or, ses talents mentaux et sociaux l'ont placé au sommet. Il est donc tout naturel que la chaîne du pouvoir, au sein de l'espèce, soit déterminée par les facultés mentales et sociales davantage que par la force brute. On a donc peine à croire que la hiérarchie sociale la plus importante et la plus stable de l'histoire se fonde sur la capacité des hommes de contraindre physiquement les femmes. La lie de la société. Suivant une autre théorie, la domination masculine résulte non pas de la force, mais de l'agression. Des millions d'années d'évolution ont rendu les hommes bien plus violents que les femmes. Celles-ci peuvent égaler les hommes pour ce qui est de la haine, de la cupidité ou des injures, mais quand les choses se gâtent, suivant cette théorie, les hommes recourent plus volontiers à la violence physique brute. De là vient que tout au long de l'histoire, la guerre ait été une prérogative masculine. En temps de guerre, le contrôle des forces armées fait également des hommes les maîtres de la société civile. Ils ont aussi profité de leur mainmise sur la société civile pour livrer toujours plus de guerres. Plus il y en a, plus leur contrôle de la société est fort. Cette boucle rétroactive explique à la fois l'ubiquité de la guerre et l'ubiquité du patriarcat. De récentes études des systèmes hormonaux et cognitifs des hommes et des femmes confirment l'idée que les hommes ont effectivement, en moyenne, des penchants plus agressifs et plus violents, et sont donc mieux armés pour faire partie de la soldatesque. Mais les soldats du rang étant tous des hommes, s'ensuit-il que ceux qui conduisent la guerre et en récoltent les fruits doivent être aussi nécessairement des hommes? Cela n'a pas de sens. C'est un peu comme si l'on disait que les planteurs seront noirs, puisque tous les esclaves des champs de coton sont noirs. De même que des cadres blancs pouvaient diriger une force de travail noire, pourquoi un gouvernement tout ou partie féminin ne pourrait-il diriger une armée exclusivement mâle? En fait, tout au long de l'histoire, il s'est trouvé de nombreuses sociétés où les officiers supérieurs n'étaient pas issus du rang après avoir été simples soldats. Aristocrates, riches et hommes éduqués se voyaient automatiquement confier des fonctions d'officier supérieur sans avoir jamais servi un seul jour dans le rang. Quand le duc de Wellington, l'ennemi juré de Napoléon, sa némésis, entra dans l'armée britannique à 18 ans, il fut aussitôt nommé officier. Il ne faisait pas grand cas des plébéiens placés sous son commandement. Au cours des guerres contre la France, il écrivit à un autre aristocrate: les soldats ordinaires qui sont dans nos rangs sont la lie de la terre. Ces simples soldats étaient habituellement recrutés parmi les plus pauvres ou dans les minorités ethniques, comme les catholiques irlandais. Leurs chances de gravir les échelons étaient négligeables. Les rangs les plus hauts étaient réservés aux ducs, aux princes et aux rois. Mais pourquoi uniquement aux ducs, pas aux duchesses? L'Empire français d'Afrique a été instauré et défendu par la sueur et le sang des travailleurs français, des Algériens et des Sénégalais. Le pourcentage de Français bien nés dans la piétaille était négligeable, alors qu'il était très élevé dans la petite élite qui dirigeait l'armée, gouvernait l'Empire et en recueillait les fruits. Pourquoi simplement des Français et pas des Françaises? En Chine, une vieille tradition voulait que l'armée fût soumise à la bureaucratie civile, si bien que les mandarins qui n'avaient jamais tenu une épée en main conduisaient les guerres. On ne gaspille pas le bon fer à fabriquer des clous, assure le dicton chinois. Autrement dit, les vrais talents entrent dans la bureaucratie, pas dans l'armée. Mais alors, pourquoi uniquement des hommes parmi les mandarins? On ne peut raisonnablement prétendre que leur débilité physique ou leur faible niveau de testostérone ait empêché les femmes de réussir comme mandarins, généraux ou responsables politiques. Pour conduire une guerre, il faut certes de l'énergie, mais guère de force physique ou d'agressivité. Les guerres n'ont rien à voir avec une rixe de pochard. Ce sont des projets très complexes qui nécessitent un extraordinaire degré d'organisation, de coopération et d'apaisement. La capacité de maintenir la paix à l'intérieur, d'acquérir des alliés à l'étranger et de comprendre ce qui passe par la tête des autres, en particulier de l'ennemi, est habituellement la clé de la victoire. Aussi, la brute épaisse est souvent le pire des choix pour mener une guerre. Il vaut bien mieux quelqu'un qui sache coopérer et apaiser, manipuler et envisager les choses de perspectives différentes. Telle est l'étoffe des bâtisseurs d'empire. Militairement incompétent, Auguste parvint à établir un régime impérial stable, réussissant à accomplir une chose qui se déroba devant les efforts de Jules César et d'Alexandre le Grand, pourtant bien meilleurs généraux. En accord avec ses contemporains admiratifs, les historiens modernes attribuent souvent ce tour de force à sa vertu de clémentia, la douceur et la clémence. Les femmes, suivant un stéréotype, sont plus aptes à manipuler et à apaiser que les hommes et ont la réputation de mieux savoir adopter la perspective des autres. S'il y a du vrai dans ces stéréotypes, elles auraient fait d'excellentes responsables politiques et bâtisseuses d'empire, laissant le sale boulot des champs de bataille aux machos simples d'esprit et chargés de testostérone. Nonobstant les mythes populaires, c'est rarement arrivé. On ne comprend pas très bien pourquoi. Gènes patriarcaux. Un troisième type d'explication biologique donne moins d'importance à la violence et à la force brute et suggère qu'au fil de millions d'années d'évolution, hommes et femmes ont élaboré des stratégies de survie et de reproduction différentes. Alors que les hommes se disputaient l'occasion d'engrosser les femmes fécondes, les chances de reproduction d'un individu dépendaient avant tout de sa capacité de l'emporter sur les autres hommes. Avec le temps, les gènes masculins transmis aux générations suivantes étaient ceux des hommes les plus ambitieux, agressifs et compétitifs. En revanche, une femme n'avait aucun problème à trouver un homme prêt à l'engrosser. Mais si elle voulait que ses enfants lui donnent des petits-enfants, elle devait les porter dans son ventre durant 9 mois difficiles, puis les entourer durant de longues années de ses soins. Tout au long de cette période, elle avait moins l'occasion de se procurer des vivres et elle avait besoin d'une grande aide. Elle avait besoin d'un homme. Afin d'assurer sa survie et celle de ses enfants, la femme n'avait guère d'autre choix que d'en passer par les volontés de l'homme si elle voulait qu'il reste et assume une partie du fardeau. Avec le temps, les gènes féminins transmis aux générations suivantes furent donc ceux des femmes attentionnées et soumises. Les femmes, qui passèrent trop de temps à lutter pour le pouvoir, ne laissèrent aucun de ces gènes puissants aux générations futures. Toujours suivant cette théorie, ces différentes stratégies de survie ont eu pour résultat que les hommes sont programmés pour être ambitieux et compétitifs et pour exceller dans la vie politique et les affaires, tandis que les femmes ont eu tendance à se tenir à l'écart pour élever leurs enfants. Des données empiriques semblent cependant démentir cette approche. Particulièrement problématique est l'idée que le besoin qu'ont les femmes d'une aide extérieure les aurait rendues dépendantes des hommes plutôt que des femmes, et que la compétitivité des mâles expliquerait que les hommes soient socialement dominants. Il est de nombreuses espèces animales, comme les éléphants ou les bonobos, où la dynamique entre femmes dépendantes et mâles compétitifs se solde par une société matriarcale. Puisqu'elles ont besoin d'une aide extérieure, les femmes sont obligées de cultiver leurs talents sociaux et d'apprendre à coopérer et à apaiser. Elles construisent des réseaux sociaux exclusivement féminins, aidant chacune à élever ses enfants. Pendant ce temps, les mâles passent leur temps à se battre et à rivaliser. Leurs talents et liens sociaux demeurent sous-développés. Les sociétés de bonobos et d'éléphants sont sous la coupe de robustes réseaux de femelles coopératives, tandis que les mâles égocentriques et peu portés à coopérer sont mis sur la touche. Alors que les femelles bonobos sont en moyenne plus faibles que les mâles, elles se liguent souvent pour battre les mâles qui franchissent leurs limites. Si c'est possible chez les bonobos et les éléphants, pourquoi pas chez les Homo sapiens ? Les sapiens sont des animaux relativement faibles, dont l'avantage réside dans la capacité de coopérer en grand nombre. En ce cas, nous devrions nous attendre à voir les femmes, bien que dépendantes des hommes, user de leurs meilleures compétences sociales coopératives pour déjouer les manœuvres des hommes agressifs, autonomes et égocentriques, ou les manipuler. Comment se fait-il que, dans la seule espèce dont la réussite dépend avant tout de la coopération, les individus qu'on suppose les moins coopératifs, les hommes, dominent ceux qui passent pour les plus portés à coopérer, les femmes? Pour l'heure, nous n'avons pas de réponse satisfaisante. Peut-être les suppositions communes sont-elles tout simplement fausses. Peut-être les mâles de l'espèce Homo sapiens se caractérisent-ils non pas par la force physique, l'agressivité et la compétitivité, mais par des talents sociaux supérieurs et une plus grande tendance à coopérer. Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, cependant, c'est qu'au cours du siècle dernier, les rôles attachés au genre ont connu une formidable révolution. De nos jours, de plus en plus de sociétés assurent aux hommes et aux femmes une égalité devant la loi, ainsi que l'égalité des droits politiques et des opportunités économiques. Mais elles repensent aussi de fond en comble leurs conceptions les plus fondamentales du genre et de la sexualité. Bien que le gender gap, le fossé entre genres, demeure significatif, les choses ont évolué à une vitesse époustouflante. En 1913, aux États-Unis, l'idée de donner le droit de vote aux femmes suscitait généralement de hauts cris. La perspective d'une femme siégeant au gouvernement ou à la Cour suprême était tout simplement ridicule. L'homosexualité était tellement tabou qu'il était hors de question d'en discuter dans une société policée. En 2013, le droit de vote des femmes est acquis. Qu'une femme siège au gouvernement ne suscite guère de commentaires. Et 5 juges de la Cour suprême, dont 3 femmes, se prononcent pour la légalisation des mariages du même sexe, passant outre aux objections des juges masculins. Ces changements spectaculaires sont précisément ce qui rend l'histoire du genre si déconcertante. Si, comme la démonstration en a été faite de manière si éclatante, le patriarcat reposait sur des mythes infondés plutôt que sur des faits biologiques, comment expliquer l'universalité et la stabilité de ce système ?